Virginie Langeroc.
Le Hamas n'a pas accepté l'offre de cesser le feu dans la bande de Gaza proposée par les États-Unis. Selon l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Par ailleurs, des altercations ont eu lieu aujourd'hui à Jérusalem lors des célébrations annuelles qui marquent l'occupation par Israël de la partie orientale de la ville. Le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Une visite considérée comme une provocation par les Palestiniens et les pays arabes. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a promis, lui, de garder Jérusalem unifiée, indivisible et sous la souveraineté d'Israël. La police a déployé des milliers d'agents dans toute la ville pour éviter des incidents. Et puis en parallèle à Gaza, pas moins de 52 personnes ont péri aujourd'hui dans des frappes israéliennes. La Suède dit qu'elle allait convoquer l'ambassadeur d'Israël pour protester contre le refus israélien de laisser entrer librement l'aide à Gaza. Enfin, avec une rare fermeté, le chancelier allemand Friedrich Merz menace aujourd'hui de ne plus continuer à soutenir le gouvernement israélien, même si l'Allemagne assure qu'elle continuera de vendre des armes à Israël. La Colombie enfin a nommé son premier ambassadeur dans les territoires palestiniens. Il y a un an, la Colombie et son président, Gustavo Petro, avaient annoncé la création de la première ambassade de Colombie à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Un véhicule a percuté un certain nombre de piétons ce soir à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre. Cela s'est produit lors de la parade organisée pour célébrer le titre de champion de football remporté cette saison par le FC Liverpool. La police ne donne pas de bilan, mais il semble qu'il y ait plusieurs blessés. Les joueurs de l'équipe du FC Liverpool défilaient dans les rues pour célébrer leur titre de champion d'Angleterre. Un homme est décédé hier soir dans les locaux de la police municipale à Lausanne. Il avait été arrêté un peu plus tôt pour des soupçons de trafic de drogue. C'est ce qu'indique le ministère public vaudois ce soir. Une instruction pénale a été ouverte. Une autopsie est en cours. L'Union européenne reste mobilisée pour parvenir rapidement à un accord commercial avec les États-Unis. C'est ce qu'annonce ce soir le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, à l'issue d'échanges avec ses homologues américains. La Commission européenne qui demande au groupe chinois Shein de respecter la législation de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs. Bruxelles menace le géant de la mode à bas coût d'une amende après un rapport du réseau de protection des consommateurs. Ce réseau des consommateurs ont notifié à Shein un certain nombre de pratiques sur sa plateforme qui enfreignent le droit de la consommation. Shein a déposé confidentiellement des documents auprès de l'autorité britannique de la concurrence et vise une introduction en bourse à Londres d'ici le milieu de l'année. Demain, la journée sera bien ensoleillée. Il reste un faible risque d'averse jusqu'en début d'après-midi. Mais le soleil sera bien présent ensuite autour du Léman et en Valais centrale. Les températures remontent. Il fera entre 12 et 21 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 4 au 19 juillet, les rives du Léman vibreront à nouveau au son du Montre Jazz Festival. Max Richter, poète des émotions. Joe Bonamassa, maître du blues. Diane Reeves, prodigieuse bête de scène. Diana Ross, reine de la soul. Ou encore Samara Joy, époustouflante vocaliste. Pour sa 59e édition, le festival réunit les plus grands noms. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Le Grand Soir. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Les références, Julian Sykes.
Nur, dass es möglichst rund, also, dass es ganz gleichmäßig aufgeht, nicht? Mit den vier Sechzehntel und Dioden. Aaron, zwei vor dem ersten Format, das geht nicht anders. Bitte.
Un grand chef qui répète la 7e symphonie de Beethoven, Eugen Jochum, dont je vais brosser le portrait musical toute cette semaine. Catholique fervent, traditionnaliste assumé, Eugen Jochum fut l'un des grands chefs allemands du siècle dernier. On l'a beaucoup associé à Bruckner, mais son répertoire était infiniment plus vaste. « Eugen Jochum, épisode 1, bienvenue dans les références. Beethoven, la fin du premier mouvement de la 7e symphonie par Eugen Jochum et l'Orchestre Philharmonique de Berlin en 1952. Une baguette de premier ordre, un chef très talentueux, un peu oublié aujourd'hui, un peu mésestimé. Eugen Jochum était un homme grand dans tous les sens du terme. Il en imposait avec sa haute stature, mais il n'avait rien d'un tyran ou d'un autocrate comme d'autres chefs de sa génération. C'était un homme fondamentalement bon, pas narcissique pour un sou, qui se voyait comme le primus inter pares avec ses musiciens. Il a signé beaucoup de disques chez Deutsche Grammophon, mais il était moins médiatique qu'un Karajan ou qu'un Leonard Bernstein à la même époque. Il dirigeait avec chaleur et avec allant. Il savait modeler de vastes architectures tout en maîtrisant les transitions. On sent d'ailleurs à travers ses interprétations qu'il sait toujours où il va. C'est naturel, spontané, chaleureux, grandiose mais à portée d'homme. Qui dit Jochum pense tout de suite à ses symphonies de Bruckner, enregistrées à deux reprises avec trois orchestres différents. Mais Jochum avait un répertoire beaucoup plus vaste. Et puis il savait très bien diriger Brahms. Les quatre symphonies et aussi les deux concertos pour piano dans un enregistrement légendaire avec le pianiste Emil Gilels. On va l'écouter justement dans Brahms, un mouvement de symphonie bucolique et chantant. Pas de sécheresse, pas de prise de tête, la musique dans son expression la plus naturelle. Thank you. Le troisième mouvement de la première symphonie de Brahms, interprété par Eugen Jochum et l'Orchestre Philharmonique de Londres. On est ici dans ce style chaleureux, harmonieux, qui fait le prix des interprétations de Jochum. Né dans une famille d'instituteurs et musiciens catholiques, jouant de l'orgue et du piano, il était fait pour diriger Bruckner, non seulement les symphonies, mais aussi la musique religieuse. Ici, le Sanctus de la deuxième messe pour chœur mixte à 8 voix et instruments à vent, à la tête du chœur de la radio de Munich et des musiciens de l'orchestre de la radio bavaroise. La musique de Bruckner, le Sanctus de la deuxième messe pour chœur mixte et accompagnement d'instruments à vent. Un morceau où Bruckner d'ailleurs reprend un thème de la Missa Brevis de Palestrina. On écoutait Eugen Jochum qui dirigeait le chœur de la radio de Munich et des musiciens de l'orchestre de la radio bavaroise. Eugen Jochum s'est familiarisé très tôt avec la pratique de l'orgue, l'instrument propre à Bruckner. Il était le second fils et troisième enfant, parmi quatre, d'une famille de la petite ville souabe de Babenhausen. Cette famille, de religion catholique, est une dynastie d'instituteurs et de musiciens. Le père, organiste, chef de chœur et chef d'orchestre, a sous sa coupe la vie musicale locale. Il dirige aussi bien le chœur de l'église, un orchestre d'amateurs que l'orchestre du théâtre de Babenhausen. « Mon père était le pape de la musique de ce petit village », se souvenait Jochum. On représentait des opérettes à l'aide de moyens très rudimentaires et avec le chœur de l'église des messes instrumentales et vocales, une messe de Palestrina le matin et la veuve joyeuse le soir. Voilà ce que fut ma toute première nourriture musicale. Le petit Eugen fait partie de ces groupes de musiciens, tour à tour timbalier, violoniste, organiste et pianiste. On découvre qu'il a l'oreille absolue et à 8 ans, il commence à jouer de l'orgue dans diverses églises de la région, en particulier à l'église d'Ottobeuren, au style bavarois baroque, qui aura une importance pour lui par la suite. En 1914, j'allais au lycée d'Augsbourg et en même temps au conservatoire pour y étudier le piano et l'orgue, racontait-il. Les petits préludes et fugues pour orgue de Bach furent mon premier contact avec ce grand maître. 3 ans plus tard, un ami protestant me fit découvrir sa musique vocale, les cantates. J'avais déjà entendu la Passion selon saint Matthieu à la Société des Oratorios d'Augsbourg et pour la première fois, je fus subjugué par ce grand univers spirituel. En 1918, ce même ami me fit cadeau de la réduction pour piano de Tristan de Wagner que j'appris par cœur. Un événement décisif se produisit. J'avais toujours su que ma vie future aurait un rapport avec la musique, mais avec Tristan, j'eus la révélation brutale que je ne pouvais être que musicien. En 1920, Eugen Jochum entend Parsifal et Tristan au Festival de Munich, sous la direction d'un grand chef, Bruno Walter. Il dirigera d'ailleurs Wagner dans les années 50 à Bayreuth. En 1965, il avait choisi le prélude et la mort d'Isolde pour un concert donné au festival de Montreux. On va se plonger au milieu du prélude, joué avec sensibilité et aussi avec ferveur. Jochum dirige ici l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam.
Thank you.
Un extrait du prélude de Tristan und Isolde de Wagner, dirigé par Eugen Jochum à la tête de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. C'était lors d'un concert en septembre 1965 au Festival de Montreux. Originaire de Souabe, Eugen Jochum grandit donc en Bavière. Il étudie le piano et l'orgue à Augsbourg et à la fin de l'année 1922, il part se perfectionner au conservatoire, ou plutôt à l'académie de Munich. Là, il prend des cours de composition puis de direction d'orchestre dans la classe de Sigmund von Hausegger. C'était le président de l'académie et le chef principal du Philharmonique de Munich. Hausegger fut le musicien auprès duquel j'appris comment un interprète doit construire une grande forme et quel est en vérité le secret d'une symphonie, disait Jochum. Il a été l'un des pionniers de la musique de Bruckner et c'est d'ailleurs Hausegger qui a donné la première version en concert en 1932 à Munich de la 9e symphonie laissée à l'état où le compositeur autrichien l'avait abandonnée à sa mort. Le jeune Jochum se met donc à aimer Bruckner et il inscrit au programme la 7e symphonie pour ses débuts de chef à Munich en mars 1926. Il a 23 ans. Cette 7e symphonie, il la dirigera souvent, il va l'enregistrer à plusieurs reprises, notamment en 1964 à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. On écoute ici le scherzo qui est si énergique et entraînant avec sa pulsation rythmique. Thank you. Le scherzo de la 7e symphonie de Bruckner, dirigé magnifiquement par Eugen Jochum à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. On vient d'entendre de la musique symphonique, mais c'est à l'opéra, à vrai dire, que Jochum fait ses armes. Il aligne les postes de répétiteur et Kapellmeister dans des théâtres de province, toujours plus importants, Mönchengladbach, Kiel et Mannheim, tout en étant responsable de la saison symphonique à Lübeck. Puis, c'est le premier poste de directeur de la musique à Duisburg, de 1930 à 32. Dès 32, d'ailleurs, il se produit aussi comme chef invité à Berlin. Il est engagé à l'opéra municipal, par la radio et le philharmonique de Berlin. Mais oui, on trouve d'ailleurs une archive de concerts avec l'ouverture de Tannhäuser en 1933, mais bon, le son n'est pas très bon. En 1934, lorsque son aîné Karl Böhm est nommé à Dresde, Jochum lui succède comme General Musikdirektor à l'opéra de Hambourg et chef des concerts du philharmonique de Hambourg. Il a 32 ans. Il continue à diriger pendant les années noires de l'Allemagne nazie, y compris pour l'anniversaire de Hitler, pour les concerts Kraft durch Freude, l'organisation de loisirs nazis, et dans les pays occupés où il effectue des tournées à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Mais il ne montre aucun engagement militant, et surtout il n'adhère pas au Parti National Socialiste. Il intervient avec succès pour éviter la déportation dans un camp de concentration hollandais à un baryton basse, au sang juif, Hermann Schey. Sur ses années à Hambourg, Jochum disait « J'y suis resté 15 ans et demi, c'est-à-dire pendant tout le régime nazi, la guerre et la débâcle. Ce fut possible uniquement grâce à la mentalité libérale qui depuis toujours caractérise cette ville. Je suis sûr qu'en raison de mes opinions personnelles et politiques, je n'aurais pas pu demeurer à Berlin, Dresde ou Munich. Ce fut pour moi la période de la première maturité. » Moins compromis que d'autres chefs de l'époque comme Clemens Krauss, Karl Böhm et le jeune Karajan, Jochum ne connaît pas d'éclipse après la guerre. On lui propose en 1949 ce qui sera la grande œuvre de sa vie, la fondation de l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, basée à Munich. Il va enregistrer de nombreux disques avec cet orchestre, comme des symphonies tardives de Mozart qui sont pleines d'élan et pleines de chic irrésistible. Ici, le final de la 39e symphonie.
Thank you.
Le final de la 39e symphonie de Mozart par Eugen Jochum et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. À Munich, le Bayerische Rundfunk envisage donc de se doter d'un orchestre de premier plan. Pour le mettre sur pied, on fait appel à Eugen Jochum, qui accepte la mission en 1948, pourvu qu'on réponde à ses conditions, sans limite budgétaire. Hambourg, évidemment, regrette de le voir partir, mais ce bavarois catholique se sent davantage chez lui à Munich, où il recrute des musiciens d'excellence. J'avais le sentiment qu'avant mes 50 ans, je devais entamer quelque chose de nouveau qui soit en rapport avec ma propre évolution, disait Jochum. Je fus alors appelé par la radio bavaroise pour créer un orchestre de rang international. Je le fis en très peu de temps, car on avait mis à ma disposition un nombre illimité de répétitions et beaucoup d'argent. En même temps, je poursuivis mon activité à l'opéra en tant que chef invité du Staatsoper de Munich. À partir de là, la carrière de Jochum, qui est déjà bien lancée, ne fait que monter en flèche. Il admire le chef Wilhelm Furtwängler et consolide ses collaborations avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Il grave avec les musiciens berlinois une intégrale des symphonies de Beethoven dans les années 50 et aussi quelques ouvertures avec son propre orchestre à Munich. On va écouter l'ouverture des Ruines d'Athènes, pratiquement en entier, dans un enregistrement de 1958 avec l'orchestre de la radio bavaroise.
Thank you.
Beethoven, l'ouverture des ruines d'Athènes par Eugen Jochum et l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise en octobre 1958. C'est tiré d'une intégrale des 9 symphonies, enregistrées la plupart avec le Philharmonique de Berlin, et de quelques ouvertures enregistrées pour Deutsche Grammophon dans les années 50. Alors, on arrive doucement au bout de l'émission et je vous propose qu'on se quitte avec Eugen Jochum naturellement et un autre orchestre allemand, les Bamberger Symphoniker. Voici le final d'une musique connue, la 40e symphonie de Mozart, enregistrée beaucoup plus tardivement en 1982. Thank you. On se quitte sur cette musique célèbre de Mozart, le final de la 40e symphonie. Eugen Jochum dirigeait les Bamberger Symphoniker. Voilà, c'est ainsi que se termine le premier volet d'une série de 5 émissions consacrées au grand chef allemand Eugen Jochum. Demain, nous reviendrons à Mozart et à Beethoven avec un splendide enregistrement de la 4e symphonie à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et puis, nous parlerons aussi de la carrière de Jochum dans les années 50. Merci à Bastien Meucli pour son assistance à la réalisation. Merci pour votre écoute fidèle, chers auditeurs. Et je me réjouis de vous retrouver au plus vite, pourquoi pas demain, dans les références. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 23h. Tout de suite, le bulletin de nuit suivi de Zone Bleue.